il fera le plus doux.
Merci à tous. Demain, même endroit, même heure, 19h pour Europe 1 Soir. Demain, la matinale. Et Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, sera l'invité de Sonia Mabrouk à 8h10 sur Europe 1 et sur CNews. La France bouge arrive. Bonsoir Aurélien Fleureau.
Bonsoir Pierre, émission ce soir consacrée aux métiers d'excellence au sein du groupe LVMH, à la veille des rencontres économiques des métiers d'art, des savoir-faire d'exception qu'il faut valoriser.
Bonne émission.
Europe 1, 21h. Le point sur l'actualité, c'est avec vous Maël Hassani.
Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Donald Trump dit avoir conçu, je cite, le cadre d'un futur accord concernant le Groenland et toute la région arctique. Le président américain fait cette annonce après une réunion qualifiée de très productive avec le chef de l'OTAN, Mark Rutte. Sur la base de cette entente, les droits de douane que les États-Unis devaient imposer à 8 pays européens, dont la France, dès le 1er février, ne seront pas appliqués. L'Europe vivement critiquée par Donald Trump cet après-midi au forum de Davos, en Suisse. Une heure de discours du président américain, marqué par des rodomontades sur la politique migratoire, écologique et industrielle du vieux continent. Emmanuel Macron, également pris pour cible, accusé d'avoir voulu jouer, je cite, le dur à cuire hier lors de son discours. Donald Trump qui va passer la nuit en Suisse avant la signature de la charte fondatrice du Conseil de paix prévue demain, toujours à Davos. Cette nouvelle instance internationale, pensée et dirigée par le président américain, doit accueillir au moins 35 pays. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Turquie ou encore Israël donnent leur feu vert aujourd'hui. La Russie dit à l'instant étudier cette proposition. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot salue une décision en cohérence avec la position de la France après le vote des eurodéputés en faveur de la saisine de la justice au sujet de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Le chancelier allemand Friedrich Merz se dit convaincu de la légalité du traité et appelle Bruxelles à l'appliquer à titre provisoire. Une femme de 25 ans tuée par balle à Nice en début de soirée. La victime se trouvait au volant d'une voiture aux côtés d'un enfant qui n'a pas été touché. Les tireurs circulaient à scooter. Ils ont immédiatement pris la fuite. Pas plus de précisions sur les circonstances des faits. L'article fixant les conditions d'accès à la future aide active à mourir, rejeté ce soir par le Sénat. Les débats sur la proposition de loi sur la fin de vie vont se poursuivre jusqu'à la semaine prochaine. Mais le texte est d'ores et déjà vidé de sa substance par la Chambre haute dominée par les Républicains. LR qui ne devrait pas voter les motions de censure en fin de semaine. Il ne serait pas sérieux de faire tomber le gouvernement dans le contexte international actuel, estime le chef des députés Les Républicains, Laurent Wauquiez. Un peu plus tôt, le vice-président du parti, David Lisnard, appelait pourtant à censurer ce budget qualifié de socialiste par le maire de Cannes. Un plan de réorganisation sera présenté demain matin par la Société Générale. 1800 postes seront supprimés d'ici 2027 sur un total de 40 000 en France. C'est ce qu'indique ce soir la CGT. Ces réductions d'effectifs se feront sans départ contraint ni volontaire, mais par le non-remplacement de départ en retraite. Et puis 30 à 50 mm de pluie sont tombés ces 24 dernières heures sur le Finistère et le Morbihan selon Météo France. Les deux départements restent en alerte orange au cru jusqu'à demain. La Ligue des champions de football, la 7e journée ce soir. L'Olympique de Marseille reçoit Liverpool. Match à suivre sur les antennes de Canal+. Coup d'envoi donné il y a quelques instants. Vous écoutez Europe 1, il est 21h03 et vous retrouvez La France bouge avec Aurélien Fleureau.
Merci Maël, on vous retrouve à 22h pour un prochain point sur l'actualité. Dans un instant, La France bouge consacrée aux métiers d'excellence au sein du groupe LVMH.
Bonjour, c'est Christine Kelly. La liberté d'expression, vous l'entendez sur Europe 1, en direct et sans langue de bois.
Christine Kelly et vous, du lundi au jeudi, de 11h30 à 13h sur Europe 1.
La radio libre.
Vous venez de finir votre série préférée. Après 9 saisons, vous dites au revoir à Dan, Jesse, Sam et Roger. Ils vont laisser un vide dans votre cœur. Alors pour vous consoler, vous commandez votre plat préféré sur Deliveroo.
Ça tombe bien. Avec Amazon Prime, l'abonnement Deliveroo plus argent est offert. Et donc, les frais de livraison aussi. Au moins, ça laissera pas de vide dans votre estomac. Ah, voilà votre Deliveroo. Ah, là, on est très bien. Abonnement Deliveroo plus argent avec Amazon Prime. Frais de livraison offerts et avantages soumis à conditions. Voir Deliveroo.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Europe 1, la France bouge.
21h, 22h.
Aurélien Fleureau.
Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver ce soir pour La France bouge, votre rendez-vous consacré à l'entrepreneuriat, à celles et ceux qui font l'économie au quotidien. Grandes entreprises, start-up, aventures personnelles sont au menu chaque soir. Et aujourd'hui, une émission consacrée aux métiers d'excellence, à des savoir-faire français d'exception de l'artisanat, des métiers de la maroquinerie, de la joaillerie par exemple. Et pour en parler, je reçois Marion Bardet. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la directrice des métiers d'excellence au sein du groupe LVMH. Merci d'être là avec nous à la veille des rencontres économiques des métiers d'art. Ce sera donc demain à la Maison de la Chimie à Paris, des métiers qui ont besoin d'être connus, valorisés. On va le voir ensemble dans quelques secondes. À mes côtés tout au long de cette émission, notre coach du soir, Philippe Sauze, investisseur, ancien DG notamment du groupe LDLC, de l'Olympique Lyonnais, de tant d'autres des entreprises. Mon cher Philippe, bonsoir.
Bonsoir Aurélien.
Merci d'être avec nous, toujours avec un plaisir. Vous allez nous apporter votre regard et en particulier sur notre start-up du soir. Comment la présenter ?
Eh bien moi j'ai mis précieuse cette fois, parce que précieuse par la matière, la paille, qui est un matériau humble mais rare dans son usage artisanal, par le geste. Et je suis vraiment très très heureux aujourd'hui de recevoir cette start-up, qui est plus qu'une start-up d'ailleurs. Donc par le geste, la marqueterie de paille est un savoir-faire exigeant, lent et vraiment minutieux. Et puis par le résultat aussi, parce que les créations de paillis dégagent une élégance discrète et presque joaillière.
Eh bien, on merci va voir ça dans quelques secondes. Ce sera avec vous, Manon Bouvier. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci. Donc, la précieuse pépite, ça va. C'est pas mal comme entrée
en gamme. J'aime bien cette présentation.
On est bien.
C'est pas mal.
Vous avez donc fondé Paillis, qui est un atelier de marqueterie de paille. Vous avez été meilleure ouvrière de France dans votre spécialité en 2019. On est donc en plein dans l'excellence et on y revient dans quelques minutes. Enfin, nous prendrons des nouvelles de Gabriel Légeret, qui était venu une première fois ici il y a un petit peu plus de 4 ans pour nous présenter De l'or dans les mains. C'est une association consacrée à la transmission des savoir-faire pour éviter évidemment leur disparition. Il s'est passé plein de choses pour elle, on en parle en fin d'émission. Voilà, vous avez le programme, nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur Europe 1.
Europe 1,
21h, 22h,
Aurélien Fleurot.
Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or.
Voilà Bernard Lavilliers, extrait parfait pour illustrer ce dont on va parler ce soir. Focus sur les métiers d'excellence qui existent au sein du groupe LVMH.
Europe 1, l'invité de la France bouge.
Marion Bardet, donc vous êtes directrice des métiers d'excellence chez LVMH. On va se dire un petit mot de votre parcours pour démarrer, avant d'aller dans le détail, parce qu'il y a plein de choses très, très concrètes à dire. Si je dis artisanat, luxe, cosmétique, ce sont un peu les mots qui ont rythmé votre parcours professionnel, hein, c'est ça ?
Oui, je suis tombée dedans dès ma sortie d'HEC. J'ai démarré par un stage chez Guerlain et depuis 25 ans, je suis restée dans l'univers du luxe, de la beauté et de l'artisanat.
Voilà, c'est ça. Donc juste après vos études, HEC notamment, et donc voilà, premier stage.
Guerlain.
C'est bon, on sait où on va, c'est la bonne direction.
Oui, absolument.
Et donc c'est un secteur qui vous avait attiré dès le début, ou est-ce que c'est le hasard entre guillemets d'un premier stage qui fait que on se destine à...
Non, c'est un secteur qui m'avait attiré dès le départ. Pour moi, la maison Guerlain était un grand parfumeur français ancré dans une histoire d'une richesse inouïe, avec un patrimoine culturel et produit absolument incroyable, et donc j'étais vraiment très attirée par cette beauté là.
Une entrée en matière qui donne envie de continuer, on peut le comprendre. Et donc au sein d'LVMH depuis 2020, et à ce poste actuel, donc directrice des métiers d'excellence, là ça fait à peu près un an. Hein,
j'ai rejoint les métiers d'excellence il y a un an. Oui.
Et donc justement, comment, avant de rentrer dans le détail, comment vous en êtes arrivé là, en termes de voilà, quel type de poste, sur quel type de secteur là vous avez travaillé au sein du groupe ?
Précédemment, je travaillais chez TAG Heuer, donc dans l'horlogerie, où je m'occupais notamment de développer une stratégie RSE pour la marque TAG Heuer.
Très bien. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet, justement, ces métiers d'excellence chez LVMH. Eh bien, vous allez nous les présenter, comme on peut le résumer en une minute. C'est à vous.
Alors, les métiers d'excellence ont été créés en 2014, puisque à l'époque, déjà, on avait identifié un énorme challenge, qui est que 25% des artisans français vont partir à la retraite d'ici à 2030, et que l'enjeu d'assurer la relève sur ces métiers qui sont indispensables aux maisons du groupe LVMH, donc 75 maisons, une diversité de métiers inouïs entre la joaillerie, vous l'aviez évoqué, l'horlogerie, la maroquinerie, mais aussi les métiers de la vigne et et du vin, par exemple. Donc, l'idée a été dès 2014 de se lancer dans la formation initiale avec la création de l'Institut des métiers d'excellence qui s'appuie sur des écoles partenaires et sur les maisons du groupe pour former en apprentissage, en alternance, les futurs talents qui reprendront ces métiers. Donc, on travaille avec les Compagnons du Devoir, on travaille avec la Haute École de Joaillerie, par exemple, en Suisse, pour l'horlogerie, et donc on forme la relève.
Exactement,
puisque derrière un sac Louis Vuitton, il faut quelqu'un qui l'imagine et quelqu'un qui le fabrique aussi.
Évidemment, donc avec ce constat en 2014 que déjà ce sont des métiers en tension, et c'est vrai que ce chiffre m'a marqué là en préparant l'émission, un quart des artisans français, 1 sur 4, va partir à la retraite d'ici 2030, donc forcément il faut préparer, comme vous l'avez dit, cette relève, donc c'était vraiment ça le point de départ, avec des secteurs plus en tension que d'autres d'ailleurs.
Oui, alors quand on a démarré en 2014, on a démarré sur des classes de bijouterie joaillerie, de maroquinerie et de couture. Donc depuis on a développé étendu nos formations dans beaucoup d'autres secteurs, ouais. Puisqu'aujourd'hui nous formons à plus de 40 métiers pour la France.
Et à chaque fois, est-ce que c'est une marque avec des besoins précis? Je sais que vous m'aviez cité en préparant l'émission, je dévoile les coulisses, Tiffany's, Chaumet, Louis Vuitton, Céline. Est-ce que donc voilà, pour des produits, chaque marque, un besoin particulier, ou est-ce qu'au final on a aussi un tronc commun entre guillemets?
Alors non, on répond complètement aux besoins de recrutement et de formation des maisons. Donc
ça,
là, par exemple,
faire du sur-mesure, là aussi.
Absolument, c'est du sur-mesure. La promotion 2025-2026 de l'Institut des métiers d'excellence, qui compte 500 apprentis, ouais. Ils sont tous en apprentissage, donc ils peuvent être en maroquinerie chez Louis Vuitton ou chez Céline.
Ils savent a priori que voilà, ils vont être formés pour des gestes très précis qui correspondront à un besoin de telle ou telle maison du groupe.
Alors oui, absolument. Pour autant, la formation derrière, quand ils sont formés à la maroquinerie,
oui.
dans un atelier Vuitton et par les
ça
Compagnons
ensuite,
du voilà. Devoir, il nous arrive d'en avoir qui vont aller dans une autre maison ultérieurement.
Bien
de
sûr.
Toute manière, on est sur des métiers dont la partie d'apprentissage étude est relativement courte, mais on continue d'apprendre son métier
ouais.
Quand on est rentré dans l'atelier en CDI, et c'est un apprentissage qui prend sur nos métiers. On considère qu'on est sur 7 à 10 ans et
oui, c'est
même,
ça,
mais ça Manon pourra en témoigner, que c'est un apprentissage qui dure tout au long de la vie et tout au long de la carrière.
Est-ce que j'allais justement vous demander le temps de formation, si on reste par exemple sur la maroquinerie, donc il y a cette base, c'est quelques semaines, quelques mois, mais on apprend toujours en travaillant, on se forme,
oui.
Formation continue.
Oui, alors sur nos métiers, on a différents types de formation, on a du CAP, on a des bacs pro, on a des bacs plus 3 également, donc il y a des études globalement assez courtes, mais par contre l'apprentissage se poursuit au-delà de ces études stricto sensu.
Et donc il y a un aspect aussi donc de formation vraiment, vous l'avez dit, sur mesure. Vous aviez vous ce besoin au sein d'LVMH de vraiment former la relève, parce que c'est des formations qui sont très spécifiques, qu'on a du mal à qui n'existe pas ailleurs globalement.
Oui, typiquement, même sur un métier aussi emblématique du luxe français que la maroquinerie, on a eu besoin de venir compléter ce qui était disponible en termes de formation, et c'est vrai dans beaucoup de nos métiers, oui.
Donc plus de 3800 apprentis formés depuis 2014. Donc,
absolument.
Donc effectivement, on voit déjà que la relève se prépare petit à petit. Et il y a des moments qui sont très intéressants dans cette démarche-là, c'est les moments où les artisans vont faire des démonstrations pour que ce soit très, très concret, donc à la fois pour les futurs formés, et même aussi, parce que c'est un des gros sujets qu'on va aborder aussi ensemble, attirer les jeunes vers ces métiers-là. Donc quand on le voit, il y a ce côté, forcément, c'est du très concret pour eux.
Oui, c'est un point capital, et donc c'est pour ça qu'après avoir démarré avec l'Institut sur la formation à proprement parler, on a déployé des actions de sensibilisation pour aller à la rencontre des jeunes publics et des moins jeunes, parce qu'on a encore 30% de reconversion à l'Institut. Parce qu'en fait, ce sont des métiers qui souffrent d'être méconnus. Et ce qu'on constate, c'est que dès qu'on les présente, dès qu'on crée la rencontre entre les talents potentiels et les talents qui exercent ces métiers aujourd'hui, on crée des vocations, on crée des envies. Et puis on va pouvoir l'étayer désormais puisqu'on a commandité l'étude Ipsos à l'initiative de l'Institut pour les savoir-faire français.
Oui, donc, une étude Perceptio, hein, c'est ça.
Perceptio.
Donc c'est LVMH, l'Institut pour les savoir-faire français et donc Ipsos, vous l'avez dit. Résultats qui seront dévoilés demain. Donc, dans vos premières ici du coup. Enquête nationale sur l'image des métiers d'art et des savoir-faire d'exception en France. Donc l'idée c'est ça, c'est de se dire il y a une image positive, il y a une méconnaissance et il y a quand même ce que vous disiez, ce fort potentiel d'attractivité, c'est vraiment les enseignements, mais qui sont chiffrés, prouvés.
Absolument, et en fait cette étude, après plus de 10 ans d'expérience et de rencontres, elle vient étayer ce qu'on expérimente vraiment sur le terrain, c'est-à-dire que ces métiers souffrent d'un déficit de présentation, et donc là nous on redémarre notre tournée UNMI annuelle semaine prochaine. On le voit chaque année, on fait venir des collégiens, chaque fois, ils découvrent des métiers qu'ils ne soupçonnent pas. Et ils découvrent aussi, on est présent avec les maisons qui font des démonstrations de leur métier, et on est présent aussi avec nos écoles partenaires, ce qui permet de présenter aussi les parcours qui permettent d'accéder à ces métiers. Et c'est quelque chose qui marche très très bien. Et c'est vrai que c'est en dehors de ces moments-là, les jeunes aujourd'hui ne rencontrent pas ces métiers, ou beaucoup trop rarement. On a des initiatives dans les collèges, mais on a aussi un programme qui s'appelle Excellent, qui nous a permis de rencontrer 8700 jeunes collégiens ou lycéens depuis qu'on l'a créé en 2021. Je sais que Manon, en tant que meilleure ouvrière de France, participe aussi à ce genre d'initiative. Et à chaque fois, on a des jeunes à qui on ouvre des horizons totalement de zéro.
Bah maintenant, on peut vous donner la parole aussi, un peu plus tôt que prévu, hein, cassons les codes, c'est quand même bien aussi dans cette émission, de ce type de rencontre-là, d'aller expliquer, de montrer les gestes, c'est vraiment important.
En fait, pour moi, ce qui est important, le faire, en fait, comment je le fais parce que je suis meilleure ouvrière de France, et en fait, on va dans les collèges, moi je suis à Lyon, donc dans les alentours de Lyon, et on va expliquer aux collégiens, souvent c'est plus 5e, 4e, pour qu'ils aient le choix de, s'ils ont envie de découvrir un métier, en fait, on va expliquer qu'est-ce que c'est d'être meilleure ouvrière de France, parce que la majorité des gens connaissent les cuisiniers, et en fait, les artisans, on peut aussi être meilleure ouvrière de France, et en fait, c'est vraiment de montrer ça, et moi, en fait, j'explique mon métier, après, c'est un métier ultra niche, donc je pense que ça va pas créer des vocations pour devenir marketeur de paille.
Mais au moins ça peut.
Mais en fait, c'est pour vraiment faire comprendre aux jeunes qu'en fait, travailler avec ses mains, c'est pas qu'on n'est pas assez intelligent pour faire des grandes études, parce que moi j'ai fait 6 ans d'études, mais en fait, c'est de dire qu'on fait un métier magnifique et en fait, on crée du rêve et de la beauté en fait, et de montrer que c'est vraiment des beaux métiers en fait. Pour moi, c'est plus ça et dans cette démarche-là avec UNMI et tout ça, c'est vraiment montrer que c'est vraiment des vrais métiers quoi.
Parfait. Bon, on reparlera de votre vrai métier dans quelques instants, Manon Bouvier pour Paëlys. Et donc voilà, dans cette logique-là, donc pour se redire un mot de l'étude, donc 97% des Français ont une image positive. Ça, tout va bien. On connaît les maisons notamment qu'incarne LVMH et ses produits qu'il y a derrière. Par contre, un tiers seulement. C'est vraiment ce qu'il y a derrière. C'est vraiment ce besoin de pédagogie. Est-ce que ça se passe aussi en termes d'orientation justement dans les collèges, dans les lycées, au-delà des expériences du coup très concrètes, c'est aussi de faire passer ce message-là. C'est aussi un de vos objectifs.
Oui, on aimerait beaucoup. Donc on le fait avec le programme Excellent dont on a parlé. On le fait avec la tournée UNMI, mais on pourrait aller bien au-delà et toucher pourquoi pas l'ensemble des collégiens français. Effectivement, on sait que on a 6 collégiens sur 10 qui déclarent à 14-15 ans qu'ils ne connaissent pas assez ces métiers pour pouvoir les envisager comme une orientation.
Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment lutter contre cet aspect-là. Philippe.
Aujourd'hui, j'imagine que tous les grands groupes de luxe sont dans cette démarche. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça tend encore plus? Ou bien est-ce que ça augmente le panel de potentiels artisans?
Non, c'est vraiment... plus on sera nombreux à porter ces sujets, enfin le potentiel il est inouï. Et quelque part, c'est vraiment notre conclusion, à la fois après notre expérience depuis 2014 sur les métiers d'excellence et confirmée par les résultats de l'étude Perceptio, c'est qu'on a encore beaucoup de potentiel si on arrive à développer la présentation de ces métiers. C'est des métiers qui sont d'une richesse inouïe.
Ah oui.
et d'une diversité inouïe. Wow. Les collégiens en général connaissent très peu les métiers de l'artisanat avant qu'ils les connaissent dans leur immense diversité. Bon, voilà, moi je vous invite vraiment à venir sur la tournée You and Me. Déjà là, entre la pâtisserie, la joaillerie, la maroquinerie, juste sur la joaillerie, nous à l'Institut des métiers d'excellence, on forme en réalité à trois métiers. Mm-hmm. Joaillier, sertisseur, polisseur.
Oui.
Ce sont trois métiers différents, trois savoir-faire différents. Donc, on a une infinité de métiers et ce sont aussi des métiers qui permettent de très belles carrières. Mmh. Ce sont des métiers, et ça aussi, ça ressort dans Perceptio, qui sont attirants quand on les présente.
Oui, voilà.
Parce que ce sont des métiers qui ont beaucoup de sens. Ce sont des métiers où on voit au quotidien la valeur ajoutée de son travail.
Concret,
et aussi où on voit très concrètement ses progrès et tout au long de sa carrière. Et donc, c'est des métiers qui contribuent beaucoup à qui permettent un grand épanouissement personnel à travers le travail. Donc le potentiel de développement et économique et humain de ces métiers, il est colossal. Et plus on sera d'acteurs à s'en emparer et à agir, plus on le développera.
C'est une force. Et justement, sur cette connaissance des métiers d'excellence, on a aussi été posé la question, alors pas des collégiens, plutôt des adultes dans les rues de Paris. Diana Ngoma est allée tendre le micro européen sur cette connaissance. Qu'est-ce qu'un métier d'excellence ?
Pour moi, un métier d'excellence et d'artisanat, c'est un métier pour lequel on est formé, je dirais, à une qualité de travail et à un savoir-faire. Et comme ça, immédiatement, je dirais que ça me fait penser au métier de la joaillerie en premier. C'est ce qui me vient tout de suite. Voilà, j'imagine les gens sourcer les pierres, travailler les matériaux, les métaux, sourcer les matières premières. Voilà, c'est ce qui me vient en tête tout de suite. Mais pour moi, un métier d'excellence, c'est un métier dans lequel on transmet un savoir-faire, peut-être depuis des générations, par exemple.
Alors, a priori, les métiers d'excellence, moi, je pense plutôt à quelque chose qui est de l'ordre, déjà de la tradition française dans le domaine plutôt du fait main, de la tannerie, de la parfumerie, de la bijouterie. Après, je sais pas si c'est ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire.
Pour moi, un métier d'excellence, c'est avant tout la maîtrise d'un savoir-faire, mais surtout le temps et les gens derrière. C'est le souci du détail, la patience. Et ça me fait penser à des artisans comme les couturiers, les joailliers ou encore les vignerons.
Bon ben voilà, on est quand... Effectivement, voilà. Donc on est dans le concret. Une réaction, Marion Bardet, je voyais sourire régulièrement.
Oui, elle est épatée par ce niveau
du petit lait, comme on dit.
Bah ouais,
c'est
absolument.
Bien. Donc effectivement.
Non, même l'approvisionnement des pierres, c'est un très beau métier, lapidaire.
Ouais, c'est ça fait partie
dans des maisons comme Chaumet, par exemple.
Ouais, des choses très très précises là aussi. Une expertise à travailler. Est-ce que selon les régions aussi, vous avez forcément des filières qui se sont développées, des spécialités? Je crois qu'en Auvergne-Rhône-Alpes notamment. Voilà, en tout cas, il y a comme ça des filières aussi où dans les établissements, on peut se dire qu'il y a une logique locale aussi.
Oui, absolument. Ce sont des métiers qui sont très ancrés dans les territoires, avec des bassins de savoir-faire historique. On sait que ce sont des métiers patrimoniaux, avec une riche histoire. Et donc, on a ces bassins de savoir-faire où on peut retrouver et la formation et la production. Donc, typiquement, dans la région Aura, on va retrouver un savoir-faire ancré sur la maroquinerie et la bijouterie joaillerie, par exemple. Et derrière, ce sont des écosystèmes complets. Donc nous, typiquement, on a des écoles partenaires pour la joaillerie dans cette région-là également. Et puis, dans ces écosystèmes territoriaux, au-delà de nos sites de production des écoles de formation, on va trouver aussi des sous-traitants, on va trouver des artisans qui ont d'autres savoir-faire, et
c'est
on en revient à la richesse infinie de ces métiers qui vont collaborer avec les maisons du groupe, et c'est le cas de Manon aussi, qui vont amener des savoir-faire encore différents de tous ceux qu'on a dans le groupe LVMH.
Et dans ces 42 formations différentes, je crois, est-ce qu'il y a des métiers plus compliqués que d'autres à renouveler, parce que c'est vraiment très, très niche, très technique peut-être, ou je ne sais pas, est-ce qu'il y a parfois des complexités à relever?
Alors, ce sont globalement des métiers qui nécessitent un apprentissage pointu, donc, mais que ce soit sur la maroquinerie, l'horlogerie joaillerie, les métiers de la vigne et du vin, où là on va être beaucoup aussi en région.
Oui, bien sûr.
On a des enjeux qui sont globalement similaires sur l'ensemble de ces métiers.
Eh bien, parfait. Merci Marion Bardet. Vous restez évidemment avec nous. La France bouge jusqu'à 22h sur Europe 1. On revient juste après cette pause musicale. Elena, tout à changer.
Je viens comme je suis, sans fleurs, sans artifice. J'ai rien enfoui, tu devines, quand je suis bien ou bien triste. Je sais pas faire l'actrice, je suis un livre ouvert. J'éclate de rire sans retenir, sans manière. C'est comme ça qu'on m'a faite, pas d'ego, pas de paillettes. On m'a appris à être honnête. Parfois les étoiles sont des comètes. Je veux bien être une étoile, si c'est pour allumer la nuit. Elle est si grande cette salle, elle est si petite cette fille. Tout a changé, rien n'a changé. C'est toujours la même fille que tu connais, que tu connais. Appelle-moi quand tu pourras. Mon numéro n'a pas changé. On ira au café d'en bas. On se racontera nos soirées. Tu me parleras de ton mec. Je veux tous les détails de l'histoire. Enfin, si t'es toujours avec, quand on arrivera à se revoir. Dis-moi si tu me trouves un peu bizarre. Si t'as je ne veux pas que nous et nous séparent. J'ai pris le premier train car je voulais te dire. Tout a changé, rien n'a changé.
Elena sur Europe 1, tout a changé.
Europe 1, 21h, 22h, la France bouge. Aurélien Fleureau.
Nous sommes toujours avec Marion Bardet, directrice des métiers d'excellence chez LVMH. Avec nous en studio également le coach du soir, Philippe Sauze. Une émission consacrée, vous l'avez compris, à l'artisanat, au savoir-faire français. Des métiers d'excellence qui sont appréciés par les Français, qui restent trop méconnus, mais qui ont un fort potentiel d'attractivité. Ce sont les principaux enseignements d'une étude qui sera dévoilée demain à l'occasion des rencontres économiques des métiers d'art. Justement, ce besoin à Marion Bardet de faire connaître, c'est vraiment ce qui vous occupe au quotidien, on l'a compris. Est-ce que donc, depuis que vous avez pris ce poste, vous avez donc, forcément fait ce constat-là et se dire en fait, il faut toujours réfléchir à d'autres manières de se faire connaître, c'est vraiment le challenge quotidien.
Oui, oui, c'est un challenge quotidien qui a été identifié depuis de longues années chez LVMH. Donc on a parlé du ONI,
on essaie de se renouveler, de proposer de nouvelles...
Voilà, et donc là, cette étude, elle va nous permettre de concrétiser, et nous, notre souhait, c'est d'appeler vraiment l'ensemble de la filière à prendre ce sujet, parce qu'encore une fois, le potentiel est infini. Donc nous, en France, on a 119 sites de production.
Oui.
Voilà, c'est des emplois dans les régions, c'est pour les 75 maisons du groupe LVMH, donc voilà, on appelle à une mobilisation toujours plus collective de tous les acteurs du sujet.
Pour ces métiers, ces gestes très concrets qu'on va continuer à découvrir avec, justement, dans quelques instants, Paëlys.
Europe 1, la France bouge.
La pépite.
Et donc c'est à vous, Manon Bouvier, meilleure ouvrière, on l'a dit, MOF en 2019, hein, donc dans votre discipline, lauréate également du prix des artisanes en 2021. D'ailleurs, ce titre, c'est quand même pas mal, vous l'avez reçu le jour de votre anniversaire. Joli cadeau, enfin 26 ans, c'est ça?
Oui, hein, c'est ça, j'ai appris que je devenais maire ouvrière de France le jour de mes 26 ans.
Bravo,
et j'avoue,
ouais,
que c'est pas mal comme cadeau.
Bah ouais, a priori, dans ce que vous êtes en train de développer, c'est compliqué de faire mieux comme cadeau. Hein.
Ouais, franchement, très beau souvenir.
Et ce qui est intéressant dans votre parcours, ce qui m'a fait réagir, c'est donc vous avez grandi à Nancy, lycée pro, CAP et Ebénistérie, et un professeur vous a dit, bon, ce serait peut-être bien de faire autre chose. Donc vous avez persévéré, et quand on sait que vous êtes devenue la plus jeune femme MOF, c'est sympa comme pied de nez.
Ça va, je fais juste une petite rectification, ouais, je suis née à Annecy.
Oui, Annecy, ouais, oui.
C'est pas,
oui.
C'est, Nancy a l'air d'être une très jolie ville aussi.
Je l'ai prononcé trop vite en fait, parce que
c'est pas mal,
j'ai écrit
hein.
Annecy sous les yeux, je l'ai prononcé trop vite, c'est ça.
Oui, ouais, en fait, quand j'ai commencé, en fait moi j'étais en seconde générale et j'ai quitté la filière générale pour aller en pro. Et la première année c'était vraiment génial, j'avais un prof adorable qui est parti à la retraite. Et deuxième prof qui ne voyait pas trop l'intérêt d'avoir des femmes dans les métiers d'art et qui a essayé de me faire comprendre que j'en avais pas trop la place. Et comme incroyable, j'aime pas tellement qu'on me dise non et que j'ai eu la chance d'avoir le soutien de ma famille pour me dire fais ce que tu veux, je me suis inscrite dans toutes les écoles de France et j'ai été prise partout et j'ai pris l'école qui serait le plus embêtant et qui était le mieux vu. Donc je suis partie à 17 ans et demi à l'école Boulle à Paris pour continuer mon cursus, donc ouais, toujours en ébénisterie, et j'ai fait 4 ans là-bas.
Ouais, c'est ça.
Et voilà.
Et après, donc, comment vous êtes arrivé vers la marqueterie de paille,
exactement? Eh ben, en fait, l'année avant notre diplôme, on a un stage en entreprise à faire, et j'avais un stage, et j'ai plus eu de stage un mois avant, et j'ai appelé une entreprise qui m'a dit, OK, on te prend, mais on peut pas te prendre dans l'ébénisterie, on te prend en marqueterie de paille, et j'avais besoin de ce stage. Donc, j'ai raccroché en disant, très bien, j'arrive avec la convention, et en raccrochant, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que la marqueterie de paille?
J'imagine, c'est ça.
Et en fait, au bout de deux jours là-bas, je me suis dit c'est ça que je veux faire de ma vie, c'est incroyable. Et à ce moment-là j'avais caché un problème de vision pour pouvoir faire mes études, ce qui fait que je vois des deux yeux mais pas en même temps, ce qui fait que je ne vois pas en 3D. Et avec la paille j'ai découvert que moi-même je pouvais voir en 3D. Voilà.
D'accord, et en plus, donc du coup,
voilà,
c'était vraiment là.
C'est sympa.
Ça correspondait parfaitement du coup à vous.
Voilà c'était fait pour moi.
C'était pour vous, voilà, exactement. Et bien justement, pour en arriver à Paëlis, on va commencer par ce petit pitch d'une minute pour bien comprendre ce que vous avez fondé. Allez-y, c'est à vous.
Alors déjà, il faut expliquer ce que c'est la marqueterie de paille. Donc la marqueterie de paille, c'est un vieux métier qui date du XVIIe siècle, que nous sommes qu'une dizaine d'entreprises dans le monde à faire aujourd'hui. Donc en fait, le principe, c'est de prendre la paille de seigle qu'on trouve majoritairement sur les toits de chaume et on la transforme. Donc on reçoit comme des pailles pour boire et chaque paille, on vient l'ouvrir, l'écraser comme des rubans pour les cadeaux, les rubans de Bolduc. Et une fois qu'on a ces rubans, on vient les coseler les uns à côté des autres et on peut faire autant du tout petit objet que du coffret, du mur, du mobilier. Et en gros, avec Paëlis, mon but, c'est de ne pas avoir de limite. Donc, on se limite à rien. Et la seule limite, c'est l'imagination de nos clients. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on est 5 à l'atelier. J'ai une super équipe, j'ai de la chance. On a des projets incroyables un peu partout dans le monde. On a nos ateliers à Lyon. On n'a pas de clients à Lyon. Mais, mais du coup, c'est vraiment ultra vague et vraiment, on a pas de limite sur les projets et donc voilà.
Parfait, on a bien compris que ce n'était pas un feu de paille, hein, évidemment.
Exactement.
Bien Aurélien, bravo.
Je ne l'avais pas préparé celle-là.
Et on ne l'avait jamais fait
spontané. Contrairement à Annecy que j'avais bien écrit.
C'est spontané Aurélien.
Bah ouais, ça arrive. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment ces gestes-là très précis. Vous avez parlé de Bolduc, moi ça m'a fait penser aux 30 minutes que je fais qu'il me faut pour un papier cadeau à Noël.
Oui,
donc voilà,
oui,
je me dis que c'est pas gagné. Mais en tout cas, voilà, c'est hyper intéressant de se dire, c'est voilà, une précision dans le geste. Et ça, vous l'avez développé en combien de temps d'ailleurs, parce que ça...
En vrai, c'est ultra compliqué à dire parce que j'ai travaillé 2 ans dans l'entreprise où je travaillais à Paris. Et en fait, quand j'ai monté mon atelier, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose d'autre à faire, que je pouvais pas faire la même chose que les autres ateliers. Et en fait, j'ai commencé à développer mes techniques à moi. Et même quand j'ai commencé ma pièce de meilleure ouvrière de France, à la fin, ce que j'ai fait, j'étais pas capable de le faire 9 mois avant. Et en fait, tout le temps, j'améliore. Et même maintenant, avec mes salariés qui me disent oui, mais est-ce qu'on pourrait pas essayer ça? Ou le fait qu'on soit tous d'horizons différents, d'autres métiers. En fait, la technique, on l'a fait évoluer en vrai tout le temps. Et moi, je pense, pour être à l'aise, peut-être, et pas avoir justement de limite, je pense vraiment 5 ans minimum.
Ouais, d'accord.
Ouais, et quand je vois le début, c'est une catastrophe, quoi. Ouais, vraiment.
Avec cette logique de se dire, voilà, on va être spécialiste de tout ce qui est impossible à faire, donc avec, en se disant, bah, on n'est peut-être même pas forcément sûr d'y arriver, mais on va tenter, on va et on va prendre le temps. Et voilà. Bon, bah, c'est très, très concret. Effectivement, Philippe Sauze, notre coach, bah, de beaucoup de d'atouts, de choses positives.
Moi, là, aujourd'hui, je suis dans la passion, je trouve ça merveilleux, les métiers d'excellence, le groupe, et puis Paëlys. Alors, Paëlys, bon, bah, en tant que local à Lyon, j'ai hâte d'aller la voir, c'est déjà. Voilà, l'atelier, pour voir un petit peu tout ça. J'ai regardé sur Internet, évidemment, le façonnage et tout, et j'ai trouvé ça bluffant, voilà. Donc, pour moi, les forces de la start-up, puisque je suis là pour aussi, après avoir qualifié la start-up, pour annoncer les forces de la start-up, bon, bah, évidemment, il y a déjà le savoir-faire artisanal, qui est extrêmement rare, on en a parlé tout à l'heure. La marqueterie de paille. J'invite tous les auditeurs vraiment qui nous écoutent, nombreux sur les podcasts et en direct et sur les podcasts, à aller voir Paëlys, parce que vraiment, c'est un savoir-faire français unique. Donc j'insiste là-dessus. La reconnaissance d'excellence professionnelle avec la fondatrice qui a obtenu, on en a parlé, le titre du meilleur ouvrier de France. Et là j'ai une question, quelles sont les épreuves pour être meilleur ouvrier de France en marqueterie de paille?
Alors ça dépend des années. Là moi mon sujet c'était comme un... Allez, il faut que je fasse simple, parce que même moi, j'arrive pas à expliquer. En gros, j'avais 30 baguettes qui étaient d'une certaine longueur et avec 4 faces. Donc, quand on écartait les 30 baguettes, on les retournait et ça fait 4 faces. En vrai, c'est incompréhensible ce que je dis.
D'accord, c'est un jeu, en fait.
C'est comme un Rubik's Cube, mais d'une autre forme.
Il y avait une logique. Bon,
La reconnaissance d'excellence professionnelle, l'innovation et la créativité contemporaine, parce que vous l'avez dit précédemment, vous ne vous fixez pas de limites.
Non.
Donc, quand les grandes marques qui sont représentées aujourd'hui par le groupe LVMH vous demandent quelque chose de particulier, on se lance et tout, donc bravo. Et puis, des collaborations prestigieuses que j'ai notées, le mobilier pour le groupe Louis Vuitton. Voilà. J'ai noté aussi des objets pour la team France Bocuse d'Or.
Oui. Alors évidemment, gros challenge.
Hein, bon, pour bien connaître la team, c'est assez sympa.
On sent le lyonnais, et puis fier de.
Et puis, ce qui renforce donc votre réputation et votre excellence, donc bravo. Je crois que vous avez un carnet de commandes bien rempli déjà.
C'est parfait.
Bon, il faut continuer. Allez voir Paëlys, parce que vraiment, c'est vraiment une entreprise à découvrir. Et j'étais très heureux aujourd'hui de participer à cette émission parce que je suis fier d'être français et je suis fier de ce que fait le groupe LVMH. Et notamment à travers, d'abord la dynamique qu'il y a à travers ces métiers. Je trouve que ça, c'est important. J'ai eu la chance de voir You and Me et je trouve que c'est vraiment bien pour les jeunes. Et comme moi, je suis dans cette période de ma vie professionnelle où je transmets, où j'aime transmettre, je trouve que c'est extraordinaire.
Parfait, merci beaucoup Philippe. Marion Bardet, justement, votre regard sur Paëlys, que vous connaissez évidemment, parce qu'il y a un lien direct.
Parce que c'est les savoir-faire, les métiers d'excellence, c'est aussi tout un écosystème. Et donc, au-delà des collaborations pour créer des projets particuliers, comme avec Louis Vuitton, l'année dernière, Manon était avec nous sur l'étape lyonnaise de You and Me. C'est des collaborations permanentes, ce sont aussi des métiers où on s'enrichit en permanence à travers tous les acteurs et toutes les typologies d'acteurs. Donc là, Manon l'évoquait avec ses collaborateurs qui lui ouvrent des horizons. Et ça marche aussi entre les différents métiers de l'artisanat. Typiquement, sur les Mal Vuitton, c'est des savoir-faire maltiers qui rencontrent la marqueterie de paille. Et c'est en permanence comme ça dans ces métiers-là. Donc c'est d'une richesse inouïe.
Effectivement. Et donc, vous l'avez dit, Manon Bouvier-Totte, pour Paëlys, le carnet de commandes, il est quasi plein pour l'année 2026. Donc, forcément aussi, vous avez formé, recruté. Est-ce que c'est pas trop compliqué, comme on est encore une fois, comme on l'a dit, de la rareté? Est-ce que vous avez réussi au fil des semaines, des mois, à former ceux qui constituent l'équipe maintenant?
Oui. En fait, quand je recrute, je recrute que par Instagram parce que je veux que les gens sachent où ils vont bosser.
Déjà, ouais.
Et c'est ultra important parce qu'il y a, un Première esprit approche. Chez Baylis. Et je veux que les gens. En fait, le savoir-être, ça s'apprend pas, le savoir-faire, oui. Et donc, je veux que les gens collent avec l'état d'âme de Baylis parce que sans mon équipe, il n'y a pas de Baylis.
Et oui,
donc,
et puis parce que c'est sur du temps long, forcément.
Oui,
donc,
c'est
on a, entre guillemets, moins le droit de se rater. C'est-à-dire, si on a investi 6 mois avec quelqu'un et qu'on ça peut être forcément frustrant.
Et en fait, les premiers temps, quand je recrute, les deux, trois premiers mois en fonction des personnes qui sont recrutées, en gros, ils sont salariés. Et en fait, c'est l'équipe qui travaille pour payer ce salaire-là.
Okay.
Et on le forme cette personne en interne pendant 2-3 mois. Et quand c'est OK, on commence à bosser, on passe sur des projets clients. Et en fait, ça se fait au fur et à mesure. Et après, on monte en étape, en étape, en étape, en étape, jusqu'à que ce soit bon. Et en gros, moi, le but, c'est d'avoir une vraie équipe pérenne, qu'on avance ensemble. Et que, en fait, moi, mon but, c'est que tous mes salariés soient pareils, voire meilleurs que moi. Et en fait, plus on est haut, moins on a de limites, plus on peut se dispatcher le travail. En fait, il n'y a personne qui fait une petite tâche ou une grande tâche, où on fait tous pareil.
Philippe,
et si on rêve 2 minutes, faites-nous rêver. Les plus beaux objets que vous avez pu créer, ou que, déjà dans un premier temps, et puis après, ce que vous rêveriez de faire.
C'est
l'impossible,
tout,
pas
c'est
encore
tout.
Réalisé.
Ouais, c'est
mais d'abord, ce que vous avez réalisé.
En fait, j'avoue, j'ai de la chance parce que quasiment chaque projet que je fais, c'est des histoires d'amour. Et en fait, du coup, chaque projet est incroyable parce que j'ai un lien avec le client, parce que ça marche en fait.
Donc, par exemple,
Le dernier un peu fou, c'est qu'on a travaillé pour Monsieur Lutin, Serge Lutin, ce qui est un grand parfumeur.
Ouais.
Et en gros, ça a été... Moi, je suis passionnée de noir. Le noir en marqueterie de paille, c'est le plus dur. Et personne m'a jamais commandé du noir.
Ouais.
Et Monsieur Lutin, ça adore le noir. Et quand on s'est rencontrés, qu'il m'a dit « Manon, je vous donne carte noire », c'était tellement incroyable. Et en fait, il m'a fait 100% confiance. Et
c'était
en fait,
pas du café, hein. C'était carte
voilà,
blanche sur le noir.
C'est ça,
voilà,
exactement. Et en fait, toute l'équipe a bossé dessus. C'était un truc ultra technique. C'était niveau meilleur ouvrier de France. On a fait des trucs qu'on n'a jamais fait. Et en fait, la reconnaissance derrière de toute son équipe, de lui. Et en fait, ça, c'est un des derniers projets où
D'accord.
ça a vraiment... Et en fait, il m'a dit un truc, je crois que c'est un des plus beaux compliments qu'on m'a dit. Il me dit, vous savez, 30 secondes de plaisir, c'est comme une vie de bonheur et c'est ce que vous venez de faire.
Bravo.
Et ça, d'entendre ça d'un
client...
Satisfaction
client, c'est pas mal. Hein.
Incroyable. Et en fait, c'est des choses comme ça. Et en fait, chaque projet, j'ai vraiment un lien avec les personnes pour qui on travaille.
Bien sûr.
Et en fait, bah, du coup, nous, à l'atelier, on y met toute notre âme. Et en fait, c'est comme ça que c'est le plus beau, en fait.
Magnifique.
Et moi, je voudrais rebondir sur deux choses très importantes dans les propos de Manon. La première, ce que tu regardes d'abord, c'est le savoir-être. Parce que le savoir-faire, ça s'apprend.
Oui.
Et c'est tellement important. Et d'ailleurs... À l'Institut des métiers d'excellence, on a développé toute une partie de coaching et d'accompagnement des candidats parce que les talents sont partout et que cette notion de savoir-être, elle est essentielle.
Donc, ça fait tout, en vrai.
C'est capital. Et ce qui transparaît tellement clairement dans les propos de Manon, c'est aussi la grande créativité et la manière dont ces métiers, les personnes qui les exercent, les font évoluer au quotidien.
Oui, c'est ça, parce qu'on pourrait se dire c'est une mécanique, entre guillemets, il y a une base à connaître, mais on peut s'amuser à partir de ça.
Et en fait, ce sont des métiers sur lesquels on ne fait pas que répondre. On répond en créant, en amenant sa patte, en amenant son expertise. Voilà, et dans ce sens-là aussi, la richesse.
Et d'ailleurs, Manon Bouvier, sur ces aspects-là, est-ce que dans votre équipe, il y a peut-être aussi des gens qui vous ont appris, ou en tout cas qui vous ont fait évoluer certaines choses? Bah tiens, pourquoi ne pas essayer ça ou ça, c'est un peu comme ça que ça se fait? Ou est-ce que malgré tout, il y a une base et c'est compliqué d'en sortir, en tout cas au départ?
Il y a une base. En fait, notre métier est simple. Je mets plein de guillemets, parce que on n'a pas beaucoup de gestes, mais pour les faire bien, c'est très très bon.
Ouais, c'est ça.
Et en fait, donc il y a cette base-là, et une fois qu'on a ça, et en fait,
c'est ensuite qu'on arrive à s'amuser.
Moi, je donne des bases traditionnelles et après, on dérive. Et pendant la formation, je leur laisse des cartes blanches. Et comme, du coup, il n'y a pas d'école pour apprendre la marqueterie de paille et qu'ils ont tous des univers différents, bah, des fois, ils ont des logiques qui ne sont pas la mienne et qui emmènent sur une nouvelle technique.
Et vous venez de... Ils viennent tous de l'ébénisterie ou...
Non, il n'y a pas forcément. Là, j'ai... quasiment là, donc il y a que des filles dans mon équipe. Ah. Oui, voilà, on est arrivé 100% féminin.
D'accord. Vous refusez les hommes donc.
Non, non pas du tout. Non, pas du tout.
C'est un autre pied de nez à un professeur.
Voilà, j'avoue, je l'ai jamais vu comme ça, mais
ah
voilà.
Oui, oui. Ah oui, c'est pas mal.
Si vous m'écoutez aujourd'hui, avait... désolé.
Ouais, bien
voilà.
Joué, bien joué.
Mais non, non. C'est en fait, il y a pas vraiment de. Je demande rien. Je demande pas
non,
de cursus. En fait, je demande juste d'avoir envie de. Faire des choses incroyables, d'être exigeante, de se remettre en question, de ne pas avoir d'ego et d'avoir l'esprit d'équipe. Vraiment, en fait, c'est ça ce que je demande en recrutement. Et après, c'est sûr que quand on connaît le milieu des métiers d'art, bah, on est déjà un peu dedans. Mais en soi, il n'y a pas de critères.
Et est-ce que vous préparez éventuellement d'autres pour le MOF, pour le meilleur ouvrier de France? Parce que les restaurateurs, c'est ce qu'ils font souvent, ouais. Ils se préparent entre eux. Bon, on sait que ça, c'est une catégorie particulière, mais vous, est-ce que vous envisageriez que le...
Non, j'aide des personnes qui passent dans d'autres branches, mais même des fois dans la gastronomie. Et
ah bon?
Oui, parce qu'en fait, le meilleur ouvrier de France, c'est du savoir-faire, mais c'est du mental. En vrai, c'est tellement dur, mais
mental,
tellement
oui.
Dur que, en fait, c'est le mental qu'il faut travailler. Parce que la technique, elle vient au fur et à mesure, mais le mental, il faut qu'il tienne derrière. Donc voilà, j'aide plus des gens qui. Enfin, en fait, j'aide ceux qui demandent, mais.
Bien sûr.
Mais j'accompagne des gens qui sont plus dans d'autres secteurs.
Oui, et sur ce genre de savoir-faire très pointu et très rare, c'est voilà, quand on a un MOF tous les 10 ans déjà, c'est une belle victoire.
Oui, puisque là on n'est que 3 meilleurs ouvriers de France en marketing.
Oui, effectivement, ça se mérite.
Voilà.
C'est sur une main quoi.
Oui.
Et sur le côté made in France, donc la paille vient notamment de Bourgogne,
parce qu'il faut
avoir quand même aussi cette matière.
Exactement, on a un seul producteur pour le monde entier.
Ah oui, voilà.
Bon, il est en Bourgogne, oui. Et donc,
qui fait les toits de chaume alors.
Voilà, majoritairement sa production est pour les toits de chaume. Et au début, il a fait une petite partie pour la marque Street Pie. Et puis maintenant, c'est quelque chose qui est de plus en plus connu, donc plus en plus de quantité. Et lui, il s'adapte aussi en amenant de la technologie dans son savoir-faire. Et voilà, et on a. Donc, si vous voyez de la marque Street Pie, n'importe quel marketeur de paille ou n'importe quel marque Street Pie que vous voyez, vient tout du même endroit.
Eh bien, je salue l'excellence de ma région, la Bourgogne, qui ne fait pas que de très bons vins.
Ah, on sent ce côté régionaliste français.
Bon, voilà, ça fait
plaisir d'avoir des fiers de pays.
Exactement.
Merci Manon Bouvier, vous restez bien sûr avec nous, tout comme Marion Bardet pour LVMH, juste avant la dernière partie de notre émission. Nouvelle pause musicale sur Europe 1. La France bouge, revient juste après. Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy?
Dry, our hearts gently beat.
Stewart sur Europe 1. Do you think I'm sexy? Avant de poursuivre notre émission, un rendez-vous à ne pas manquer sur notre antenne du lundi au vendredi entre 13h et 14h. Retrouvez Clélie Mathias et toute la rédaction. Tour complet de l'actualité, des débats, du reportage en direct évidemment. Europe 1 Info du lundi au vendredi entre 13h et 14h.
Europe 1.
La France bouge. 21h, 22h.
Aurélien Fleureau.
Et c'est la suite de notre émission consacrée à l'artisanat d'excellence, des métiers extrêmement précis, on l'a compris, des savoir-faire pointus qu'il est bon de mettre en valeur, car c'est un secteur qui recrute, puisqu'un quart des artisans français sera parti à la retraite en 2030. Il y a donc besoin de former, de transmettre, et c'est ce que l'on constate ce soir avec notre invitée Marion Bardet, directrice des métiers d'excellence chez LVMH. À mes côtés également notre coach Philippe Sauze, ainsi que Manon Bouvier-Tot, meilleure ouvrière de France en 2019, qui vient de nous parler de Paëlys, donc ce magnifique atelier de marqueterie de paille que le Lyonnais Philippe Sauze ira visiter dans quelques jours. Le rendez-vous est pris.
Je confirme, le rendez-vous est pris.
Pendant Rod Stewart, ça s'est calé. On vous dévoile les coulisses de l'émission. Je me tourne à nouveau vers vous, Marion Bardet, effectivement, pour quelques petites questions. Ce petit format qu'on aime bien, questions éclair, réponses éclair, ça va nous permettre à la fois d'en savoir un petit peu plus sur vous et sur ce qu'on s'est dit dans cette première partie d'émission sur ces métiers d'excellence. Première question sur le côté, on est plus sur du patrimoine à protéger pour vous ou une filière à réinventer ?
Les deux vraiment ensemble, et la caractéristique de ces métiers, c'est qu'ils sont effectivement des métiers de patrimoine ancrés dans l'histoire. Manon l'évoquait sur son métier, mais ce sont des métiers qui sont en constante évolution, et nous on en est convaincus, ce sont des métiers d'avenir, ce sont des métiers qui recrutent, ce sont des métiers dans lesquels il n'y a pas de chômage, et ce sont des métiers dans lesquels on apprend tout au long de sa vie. Donc en termes de développement personnel, c'est des métiers fantastiques.
C'est ça. Plus personnel, le tout premier geste d'artisanat qui vous a marqué justement dans un atelier.
J'ai été sidérée, parce que je ne l'attendais pas à cet endroit-là, d'avoir découvert le baudruchage sur les flacons de parfum Guerlain.
Ouais.
Ces fils de soie ou ces fils d'or qu'on va enrouler autour du col du parfum. Et c'est une manière de sceller et d'assurer l'étanchéité du parfum également. Donc des savoir-faire incroyables.
Effectivement. Ce qui vous touche le plus quand vous entrez dans un atelier, quand vous, justement, vous faites ces opérations aussi sur place concrètement ?
Ce qui me touche à chaque fois, c'est la passion des personnes qui font ces métiers-là. C'est-à-dire que on a l'exemple avec Manon, mais honnêtement, à chaque fois qu'on rencontre, il y a une passion, il y a une exigence. Et on a l'impression qu'on pourrait passer la journée à les entendre parler de leur métier, parce que eux sont passionnés et que ce qu'ils racontent est passionnant. Donc cette richesse-là, c'est systématique.
On l'a compris, former prend du temps. Est-ce que c'est donc un luxe qu'il faut s'offrir ? Est-ce que c'est aussi une nécessité stratégique ?
C'est absolument les deux. C'est absolument intrinsèque à ces métiers. Ce sont des métiers du temps long. Ce sont des métiers de l'apprentissage infini. Oui, c'est les deux.
Et dernière petite question, ce que ces métiers-là vous ont appris, vous, à titre personnel ?
Ces métiers me rappellent en permanence qu'il faut savoir s'écouter, qu'il y a énormément de formes d'intelligence et que le jour où on rencontre son métier, quel qu'il soit, manuel ou non, mais y compris manuel, cette rencontre, on la sent, c'est une révélation et il ne faut pas passer à côté et avoir la curiosité d'aller découvrir l'infinité des métiers qui existent, et même en dehors de nos métiers d'excellence, parce que je crois vraiment que l'épanouissement professionnel passe par faire ce qu'on aime.
Effectivement, ça aide. Merci beaucoup Marion Bardet, vous restez bien sûr avec nous. Place maintenant à notre troisième invitée qui est déjà venue dans la France Bouge. Elle a lancé une association qui a pour mission de valoriser et soutenir la transmission des savoir-faire qui sont pour certains en voie de disparition.
La France Bouge, que sont-ils devenus ?
Bonsoir Gabrielle Légeret.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous. Donc vous êtes passé dans l'émission une première fois, c'était il y a un petit peu plus de 4 ans, novembre 2021. Et forcément pour votre association de l'or dans les mains, beaucoup de choses ont changé.
Oui absolument, en 2021 c'était la création de l'association.
C'est
aujourd'hui
ça.
On arrive dans notre cinquième année. Les choses se sont structurées, amplifiées. Aujourd'hui, on est une équipe de 14 salariés et ce sont 10 000 jeunes depuis la création de l'association qui ont bénéficier de nos programmes de sensibilisation aux médecines manuelles.
Oui, en 2021, vous étiez seul. Maintenant, vous êtes 15 pour développer effectivement tout, tout ce que vous proposez. Donc, la relation entre artisan ou avec un jeune ou un demandeur d'emploi ou en reconversion, c'est vraiment cette logique-là que vous avez continué à développer.
Alors, on a choisi un peu notre combat et maintenant, on est vraiment sur les collégiens depuis 4 ans et demi, 4 ans. Donc, nous, on a vraiment perçu que, en fait, c'était dès le collège que ça se passait. C'est quand, en fait, que l'intelligence manuelle ne fait pas partie des compétences qui sont valorisées ni même évaluées par l'éducation nationale. C'est quand même compliqué de dire à un jeune de 14 ans bah, « deviens fleuriste, c'est magnifique », alors que « deviens ingénieur, ça va de soi » puisqu'on fait des maths depuis longtemps. Et donc, notre idée, c'est vraiment de réintégrer l'intelligence manuelle au sein du système éducatif pour faire en sorte que ça irrigue les programmes scolaires.
Et donc, c'est ça, vous travaillez dans 41 collèges, à peu près toutes les académies sur tout le pays. Et il y a aussi cet engouement qui est du coup une bonne nouvelle aussi, c'est que plus de 300 collèges sont en liste d'attente. Ils espèrent accueillir vos ateliers.
Ah oui, complètement. Il y a un vrai engouement de la part des enseignants parce qu'en fait, on touche à un sujet qui peut contribuer à résoudre pas mal de problèmes. Alors, on parle évidemment de l'orientation, mais on parle aussi de la réussite éducative, comment est-ce qu'on sort d'un système assez élitiste qui n'évalue que par le théorique pour réintégrer des éléments plus pratiques. Ça touche aussi aux enjeux de santé mentale et physique, puisqu'on a des enjeux de mobilité, de motricité fine, de surexposition des écrans, d'enjeux écologiques aussi, comment est-ce qu'on réapprend aux enfants à comment ils fabriquent un objet, que quand on se pose la question de d'où viennent les matériaux, on peut peut-être mieux acheter. Et de cohésion sociale aussi, parce qu'en fait, quand on crée des liens sur un territoire entre des jeunes, des entreprises, des artisans, eh ben, vous contribuez à la cohésion sociale et ça, c'est assez magique.
Effectivement, et donc vous êtes dans cette logique de plaidoyer pour ces métiers manuels. Vous avez d'ailleurs écrit un livre qui est paru en septembre dernier, « En finir avec les idées fausses sur les métiers manuels et l'artisanat ». C'est vraiment dans cette démarche-là qu'on a évoqué avec Marion Bardet au sein des métiers d'excellence d'LVMH, de communiquer, faire savoir, faire de la pédagogie, défendre aussi ces métiers parfois pas assez connus.
Oui, il y a en effet beaucoup de défauts à déconstruire en matière de salaire, de représentation, de compétences. Elle le dit très bien. Non, en fait, ce sont en effet, c'est des métiers liés à notre patrimoine, mais c'est vraiment des métiers de demain. En matière de transition écologique et sociale, en fait, on ne pourra pas faire sans. C'est pas l'IA qui va nous aider à construire des bâtiments plus résilients face à la montée des eaux. C'est pas non plus l'IA qui va nous permettre de recréer du lien social à l'échelle de territoires ruraux. Donc, en effet, c'est vraiment les métiers de la main. Ce sont des métiers de demain.
Voilà, l'IA pourra peut-être aider, mais en tout cas pas remplacer, ça c'est sûr, ce sujet de la transmission, Marion Bardet pour LVMH, on l'a dit, il y a vraiment cet enjeu, on a ce besoin-là, urgent, dans les 3-4 ans, il faut remplacer beaucoup, beaucoup d'artisans.
Oui, on a ce besoin urgent, et c'est, Gabriel, avec son association, illustre aussi une autre action d'ampleur, qui est une autre initiative d'ampleur. On voit bien que ces initiatives sont diverses et nombreuses, et que pour autant, il faut aller encore plus loin. On aura l'ouverture aux manufactures nationales d'un nouveau centre de formation, un CFA, à la rentrée prochaine, sur des métiers qui sont menacés d'être orphelins, des niveaux brevets des métiers d'art, BMA. Donc, les initiatives, elles sont partout, mais on pense qu'on peut encore monter d'un cran. Et je rejoins aussi totalement Gabrielle sur ce qu'elle disait concernant la dimension durabilité et la dimension sociale de ces métiers. C'est lié à l'ancrage territorial de ces métiers. Quand Manon parle de son fournisseur unique de paille, on voit aussi la dimension écosystème local. Le bilan, il est très très clair et on sait dans quel sens il faut pousser.
Effectivement. Gabriel, un dernier mot avec vous sur ce qu'on peut vous souhaiter là pour les prochains mois. Comment vous aider à avancer plus vite, par exemple, si vous avez un message, un besoin, allez-y, c'est le moment.
Toutes les entreprises de savoir-faire peuvent rejoindre le mouvement en nous mettant à disposition quelques après-midi dans l'année des salariés qui exercent un savoir-faire et qui peuvent venir le transmettre à leurs jeunes en leur faisant fabriquer un objet ou expérimenter un geste en lien avec leur programme scolaire.
Et bien parfait, le message est passé. On vous retrouve, vous aussi, demain aux rencontres économiques des métiers d'art. Merci à vous, merci à toutes nos invités et merci à Philippe Sauze, notre coach
avec
du
plaisir,
soir,
Aurélien.
Le Lyonnais.